Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs de m'avoir convié à ce congrès afin que je puisse partager avec vous ma vision de clinicien concernant la thrombolastométrie en chirurgie cardiaque. Alors pour commencer, je tenais à préciser, vu que je vais vous parler de Rotem, que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le laboratoire Werfen. Alors quelques brefs rappels autour de l'hémostase pour commencer. Alors ça va être assez bref parce que je pense que vous connaissez ça probablement mieux que moi. C'est un processus, comme vous le savez, qui est à la fois complexe et dynamique. Et finalement, on s'éloigne un petit peu de la vision livresque qu'on a pu apprendre dans nos premiers bouquins avec les différents temps qui vont s'enchaîner séquentiellement. On est plutôt, comme vous le voyez sur le schéma de droite, sur une problématique clairement dynamique avec les différentes étapes qui vont avoir lieu de manière concomitante et qui vont s'activer à des degrés différents en fonction de la physiopathologie et de la situation clinique du patient, parce qu'il n'y a pas une coagulopathie, il y a un nombre vraiment infini de coagulopathies probablement, mais c'est quelque chose de très complexe. Et une situation justement physiopathologique et clinique particulière, eh bien, c'est la chirurgie cardiaque. C'est une chirurgie à haut risque hémorragique, c'est une des chirurgies à plus haut risque hémorragique même, je dirais, de par le terrain du patient d'une part, avec des patients qui vont être dans un état pro-inflammatoire, avec de l'inflammation en post-syndrome coronarien aigu par exemple, on en a parlé un petit peu ce matin justement, on opère des patients pour des endocardites, on opère des patients en urgence pour des dissections aortiques, tout ça entraîne une inflammation absolument majeure. Ensuite, on a certains patients qui peuvent être porteurs de coagulopathie également. On pense notamment à l'exemple des rétrécissements aortiques serrés qui, lorsqu'ils sont effectivement très serrés, peuvent avoir un Willebrand acquis. On a également des patients qui vont prendre des antiagrégants plaquettaires, voire même qui sont sous anticoagulants, et lorsqu'on les opère en urgence, on n'a pas forcément le temps de les arrêter. C'est une urgence parfois vitale. L'autre facteur, eh bien, c'est la chirurgie. C'est une chirurgie quand même assez complexe et surtout qui peut être particulièrement longue, jusqu'à 8 heures même parfois. On va avoir donc les lésions tissulaires qui sont associées à ce type de chirurgie, comme toute chirurgie, mais là, le site opératoire est quand même assez vaste. On va avoir une inflammation induite qui va retentir avec la coagulation de nos patients. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est la circulation extracorporelle, puisque la plupart des chirurgies cardiaques se font sous circulation extracorporelle. Donc en pratique, on arrête le cœur et c'est une machine qui prend le relais pour faire circuler le sang dans tous les autres organes qui ont besoin d'être perfusés pendant l'intervention. Et là, on va avoir un contact sang avec du matériel, et notamment les tubulures, les oxygénateurs, que je vais vous montrer juste après, qui va entraîner des modifications physiopathologiques diverses, et notamment dans des modifications au niveau de l'hémostase. On va avoir un flux continu qui va être généré par la pompe de circulation extracorporelle qui est complètement antiphysiologique par rapport au battement de notre cœur. On va avoir parfois besoin d'utiliser de l'hypothermie pour protéger les organes, notamment quand on fait des arrêts circulatoires pour réparer des crosses de l'aorte, donc les chirurgies de crosses de l'aorte. Et à un moment donné, le cerveau n'est plus perfusé, on est obligé de faire de l'hypothermie pour éviter les risques d'AVC post-opératoire. Et enfin, il y a une part d'hémodilution qui est absolument obligatoire, puisque pour lancer la machine de circulation extracorporelle, il faut que l'ensemble de la tubulure soit purgé avec du liquide, et donc ce sont des cristalloïdes, et c'est en moyenne 1 litre, 1 litre 4, qui va rentrer dans le patient brutalement et qui va venir diluer le patient en quelques secondes au départ en COC. Alors voici, pour vous donner un ordre d'idée, à quoi ressemble une machine de circulation extracorporelle. Donc vous voyez que le sang passe dans tout un tas de tuyaux, de poches, d'oxygénateurs, etc. Et donc vous vous doutez bien que c'est tout à fait antiphysiologique et comme le disent certains de nos perfusionnistes, une bonne COC, c'est une COC qui dure le moins longtemps possible parce qu'on sait qu'on va être forcément délétère à rester en COC. Et donc là, voilà, vous avez la pompe principale à droite avec la poche de recueil. À gauche, vous avez des pompes accessoires. Donc on a Nous, on a une pompe micro-axiale rotative électromagnétique en pompe principale et des pompes à galets en pompe accessoire. Alors, comment on monitore l'hémostase donc en per et post-opératoire de chirurgie cardiaque? Alors, vous connaissez les traditionnelles méthodes de dosage fibrinogène, plaquettes, TPTCA. Vous savez également qu'il existe des tests fonctionnels plaquettaires, mais bon, qui ne sont pas forcément utilisables en routine, malheureusement. Et donc, on va se rabattre donc sur la thromboélastométrie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'étude de la formation et de la lyse du caillot dans des appareils spécifiques. L'avantage, c'est qu'il nous donne des résultats vraiment extrêmement rapides. Hein, en 10 à 15 minutes, on a les premiers résultats. Et ils peuvent même nous donner des informations éventuellement qualitatives sur la qualité de notre caillot. Et donc, en fait, vous avez là un thromboélastogramme en bas à droite. On va détailler ça un petit peu plus tard, mais en gros, c'est la formation, puis la lyse du caillot qui va être étudiée. Alors, on va essayer d'anticiper le risque hémorragique en post-opératoire de chirurgie cardiaque. On a quelques outils à notre disposition. Un outil clinique qui est le score de Papworth, prend en fait tout un tas de critères, et vous voyez que si on a un score de 4 ou 5, on a un risque de syndrome hémorragique aigu grave de 27 ou 26%, donc ce qui est quand même énorme, c'est un saignement de 2 millilitres kilo heure, donc c'est quand même significatif. Et ensuite, on va essayer de jouer sur la triade létale que vous connaissez aussi probablement, donc on va essayer de supplémenter en calcium si nécessaire pour éviter l'hypocalcémie qui est nécessaire à la bonne coagulation du sang. On va essayer d'éviter l'hypothermie quand la chirurgie nous le permet, et on va essayer de rester normo pH également pour que les enzymes de la coagulation puissent fonctionner au mieux. Et donc, on a plusieurs indications de ROTEM, et la chirurgie cardiaque fait partie des indications sur lesquelles les niveaux de preuve sont les plus élevés, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. On peut même utiliser le ROTEM en préventif lorsqu'on sait qu'on va avoir quand on a des fortes probabilités de coagulopathie, c'est-à-dire CEC longue ou des facteurs de risque de saignement qu'on aurait identifié avec le score de Papworth, par exemple. Et donc, bon, je vais pas vous refaire toute la bibliographie sur le ROTEM, c'est pas le but, mais c'est une technique qui a plus de 50 ans déjà, donc il y a plus de 2500 papiers qui ont été publiés sur le ROTEM. En gros, donc là j'ai fait une petite synthèse d'études récentes, mais ce qui a été prouvé, c'est qu'il y a une diminution des saignements post-opératoires, une diminution des reprises chirurgicales, et une diminution de la transfusion, notamment de PFC, avec des diminutions des coûts également induites par la prise en charge et par la transfusion. Et certaines études montrent même une baisse de mortalité en cas d'utilisation du ROTEM. Donc en pratique, comment ça se passe au CHU de Caen? On a deux ROTEM qui sont situés au laboratoire d'hémostase, donc ils sont centralisés. Donc on est passé par un débat quand on a fait venir cette technique au CHU de Caen. On discutait effectivement, est-ce que les ROTEM vont être plutôt centralisés ou plutôt délocalisés? Et alors là, il y a des pour et des contre dans les deux cas. Le fait de maintenir les ROTEM centralisés au laboratoire, bon, ça permettait un accès équitable pour tous les blocs opératoires, et surtout, ça simplifiait la certification, la qualification du personnel et des appareils, avec un entretien et un contrôle qualité des appareils qui étaient facilités. Et c'est vrai qu'il y avait des problématiques de personnel aussi au laboratoire d'hémostase qui ont fait retenir cette solution. L'avantage d'un ROTEM délocalisé au bloc opératoire, c'est l'accès immédiat à des résultats plus rapides, et surtout on s'affranchit de la méthode et du délai de transport. Alors on a des bons spécifiques, l'acheminement se fait par un système pneumatique qui a été installé assez récemment au CHU de Caen. Voilà, on a une procédure où il faut appeler donc le laboratoire d'hémostase pour qu'ils aillent récupérer le prélèvement au plus vite. Et ensuite, l'utilisation sinon du ROTEM est assez simple et peut être réalisée également pour un clinicien. C'est juste une cassette à rentrer, le tube qui est à scanner pour des problématiques d'identité ou vigilance, et ensuite percuter le tube citraté. Et donc on a des ROTEM, on devait choisir cardio ou obstétrique et bloc des urgences, parce que les réactifs ne sont pas tout à fait les mêmes, on ne cherche pas tout à fait à étudier les mêmes choses, on va en parler juste après. Mais voilà, on a une problématique d'acheminement qui a pointé le bout de son nez et qui n'est pas des moindres. puisque le CHU de Caen, actuellement, c'est une tour de 21 étages. Donc là, la photo, elle a été prise depuis le CHU de Caen. Sauf que le nouveau CHU est en cours de construction. Et là, vous voyez le premier bâtiment en bas à gauche sur la photo, eh bien, c'est le laboratoire d'hémostase et les laboratoires en général. Donc, bon, le pneumatique fonctionnait bien jusque-là, mais depuis le déménagement du laboratoire d'hémostase, on a des problématiques extrêmement importantes d'acheminement, avec des prélèvements qui vont rester bloqués et parfois nécessiter d'attendre une heure et demie pour avoir un acheminement correct de par le blocage du système pneumatique, ce qui pose vraiment problème dans notre cas. Il y a un autre souci aussi, c'est l'accès pour l'accès à distance. Il faut qu'on puisse accéder aux résultats à distance, du coup, vu que le ROTEM est centralisé. Alors, on a eu des problèmes avec la DSI aussi, pour des arguments de risque de piratage, de cyberattaque, etc. Ils voulaient utiliser que des logiciels vraiment dont ils puissent contrôler le code source. Et donc, on n'a pas pu utiliser d'emblée le GEM Web, dont je vous parlerai juste après. Donc, on était initialement sur le ROTEM Secure Viewer. Alors, il est peut-être secure en termes de données patients, effectivement, mais on a quand même des problématiques où il faut choisir, en fait, si on veut accéder au ROTEM 1 ou au ROTEM 2. Donc, des problématiques potentiellement d'identito-vigilance. Et malheureusement, quand on utilise un ROTEM, c'est souvent des situations d'urgence et les risques d'erreur sont extrêmement élevés. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. On a eu un patient qui a été transfusé de PFC alors qu'il n'en avait pas besoin parce que le ROTEM qui a été interprété n'était pas le bon, et manque de chance, malheureusement, ce patient a fait un choc anaphylactique au PFC. Donc on a rediscuté un petit peu de tout ça avec la DSI qui, alors on comprend bien, hein, effectivement, qu'il y a des problématiques de piratage, et ça sera l'objet de certains topos, je pense, durant ce congrès. Donc là, vous avez la carte de cyberattaque en 2023 concernant les hôpitaux. En 2024, sur la gauche aussi, ça continue. Hein, donc c'est une problématique qui est réelle. Mais on a la problématique de la sécurité patient versus la sécurité de données des patients. Voilà, on a choisi de basculer un tout petit peu plus vers la sécurité patient pour éviter qu'une situation telle que je vous ai décrite n'arrive à nouveau. Et donc le GEM Web Live, ça nous permet d'accéder aux résultats du ROTEM directement depuis la salle de bloc opératoire ou depuis la réanimation si on est en réanimation. Et cette fois-ci, on rentre l'IEP du patient, donc il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà, donc là vous avez l'interface qui est présentée ici. Ensuite, on peut également récupérer des données a posteriori. Alors, en passant par le GEM Web Plus, qui est finalement un middleware qui va être utilisé plutôt par le laboratoire, mais voilà, qui peut nous servir également pour récupérer a posteriori des données. Donc, il suffit de taper le nom du patient ou l'IEP du patient, et on peut accéder au thémogramme notamment. Et justement, le thémogramme, le voici. Alors, comment on va l'interpréter ? Donc, on a le CT, c'est la petite ligne verte au début. C'est le clotting time, le temps que le caillot commence à se former. Quelque chose qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui nous intéresse également ? Le A5, c'est l'amplitude à 5 minutes du caillot qui nous permettra d'extrapoler finalement l'amplitude maximale du caillot. Qui est le MCF, le Maximum Clot Firmness. Et ensuite, on a la phase de fibrinolyse qu'on va étudier également via le LI30 ou l'APTEM en fonction des cassettes. Et là, vous avez par exemple typiquement un aspect en queue de lotte, donc un caillot qui est absolument instable, puisqu'il va se former, il va se fibrinoliser et disparaître aussitôt. Donc là, il y a un excès de fibrinolyse dans ce cas. Et donc, tout ça mène à l'algorithme décisionnel du CHU de Caen, avec donc l'étude du CT de l'extème initialement, donc la petite ligne verte. Si elle est allongée, eh bien, on part du principe que il y a besoin de passer des produits sanguins de type PFC, puisqu'en fait, le CT de l'extème est bien corrélé au TP. Ensuite, on regarde l'A5 de l'extème, donc l'amplitude à 5 minutes de l'extème, si elle est inférieure à 30, et si le A5 FIPTEM est supérieur à 9, à ce moment-là, on a une problématique de thrombocytose ou éventuellement de thrombopathie, et donc on va devoir passer des produits sanguins de type plaquettes. Ensuite, la 5XTEM est bas, mais que la 5FIPTEM est bas également, donc là on a la composante fibrinogène qui va manquer, et on va passer donc du fibrinogène. Et finalement, en chirurgie cardiaque, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on, pour rendre le sang compatible avec la circulation extracorporelle, on doit utiliser des très fortes doses d'héparine. Et ensuite, on antagonise cette héparine avec de la protamine, et parfois on peut avoir de l'héparine résiduelle malgré antagonisation. Et l'Eurotem permet de détecter ça également, en comparant le CT de l'INTEM, qui est à peu près l'équivalent du TCA, au CT de l'EPTEM, qui contient de l'héparinase, qui neutralise donc l'héparine. Et voilà, on peut savoir si on a besoin de passer de la protamine également. Alors tout ça passe également par une formation des équipes, et ça c'est extrêmement important. Il faut donc des staffs de formation, plusieurs staffs, hein, souvent ça permet de bien se familiariser avec la technologie. Pour discuter notamment de la procédure d'acheminement, de la procédure d'utilisation des logiciels également, et pour se familiariser avec les algorithmes locaux. Et donc tout ça, on a fait ça donc en collaboration avec les cliniciens, les hémostasiens et le laboratoire qui fournit la technologie. Donc, nous, chez nous, c'était Versen. Et donc idéalement, il faut également avoir un référent ROTEM par équipe pour simplifier un petit peu la communication. Donc nous, c'est en chirurgie cardiaque, chez les traumatisés sévères et en obstétrique, qui soient finalement des personnes ressources qu'on puisse contacter en cas de problème d'interprétation ou en cas de problème technique sur la machine aussi. Ça permet de faire le relais avec le laboratoire d'hémostase plus facilement. Et donc pour étayer vraiment ces propos, je vous propose des cas cliniques qui sont issus de cas réels. Donc un patient de 76 ans pour un bental biologique. Alors je vais détailler un petit peu après, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, je vais illustrer ça. En urgence, sur un anévrisme préfissuraire de l'aorte ascendante de 9 cm, la circulation extracorporelle était prolongée, on a antagonisé donc l'héparine avec de la protamine en post-CEC. On a un saignement significatif en nappe en fin d'intervention. Pas de brèche vasculaire évidente à l'inspection par le chirurgien. Finalement, c'est un saignement plutôt diffus. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est des facteurs de risque de saignement post-opératoire. Donc voilà, on les a bien identifiés là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bental ? Alors, un bental, c'est un remplacement de la valve aortique en bloc avec l'aorte ascendante. Alors sur l'aorte ascendante, sur la partie initiale, on a en plus de ça les artères coronaires qui vont naître de cette portion-là. Donc il va falloir en plus réimplanter les artères coronaires sur la prothèse. Donc vous voyez que là, ça fait quand même un certain nombre de fils de suture qui vont être utilisés, et c'est vraiment de la microchirurgie de suture avec un nombre vraiment très très important et un risque de saignement qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on fait plein de micro-trous du coup dans des prothèses pour fixer tout ça. Et donc voilà, ça fait partie vraiment des chirurgies qui sont plus à risque hémorragique que le reste. Donc en pratique, comment on faisait avant d'avoir l'EuroTEM ? Donc en fait, les délais de coagulation standard dans notre laboratoire, nous, on mettait à peu près 45 minutes à 1 heure pour avoir un bilan d'hémostase complet, généralement plutôt 1 heure. Donc c'est pas compatible avec une gestion de l'hémorragie dans l'aigu. Donc là, ça nous permet pas d'être assez réactif. Notamment quand on a des risques hémorragiques élevés. Donc en gros, si le patient saigne, le chirurgien va essayer de faire l'hémostase. Tant qu'il n'a pas réussi à faire une hémostase correcte, normalement il ne fermera pas le thorax. Et donc on va prolonger l'intervention, ce qui majore le risque infectieux, le risque respiratoire du patient également, puisqu'on poursuit de la ventilation mécanique. Et le risque de saignement aussi, hein. Le patient va continuer à saigner et on ne sait pas trop pourquoi. Donc en pratique, comment on gérait ces situations-là avant d'avoir l'EuroTEM ? On utilisait une bombe hémostatique, à savoir on transfusait tout, 4 PFC, 3 grammes de fibrinogène, 1 à 2 concentrés plaquettaires, voilà, tout en sachant que le délai de commande entre la commande et l'arrivée des produits sanguins au CHU de Caen, c'est à peu près 30 minutes. Donc on est plutôt pas mal de ce côté-là, le FS est juste à côté, on a cette chance-là. Voilà, donc on passe tout à l'aveugle. Alors que là, finalement, chez ce patient-là, en fait, finalement, on avait un ROTEM qu'on a pu lancer. Et là, on va constater effectivement que le CT de l'extem était allongé, mais que le reste était normal. Donc en fait, la seule chose à faire, eh bien, c'est de transfuser 4 PFC. Donc ça change un petit peu la donne quand même. Un deuxième cas clinique à présent, donc une patiente de 78 ans, un petit gabarit, 1m58, 42 kg. Donc ça aussi c'est un facteur de risque, hein, parce que vous vous rappelez, il y a l'hémodilution qu'on va entraîner lors du priming de la COC, donc qu'on passe 1,4 L chez un grand gaillard ou chez une petite dame, ça va pas être les mêmes conséquences. Remplacement valvulaire aortique biologique devant un rétrécissement aortique serré. Une COC cette fois-ci courte, antagonisation de l'héparine par la protamine également. On remonte en réanimation, sauf que là, on a un saignement de 300 ml dans les drains pleuraux, 180 ml dans les drains médiastinaux, ce qui par rapport à la surface cutanée de la patiente est quand même assez élevé. Et donc là, la question principale qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un saignement dû à une coagulopathie médicale, entre guillemets, auquel cas donc, il nous faudrait un bilan de coagulation pour rechercher la coagulopathie, et la solution, ça va être de transfuser du coup pour contrer cette coagulopathie. Ou alors, est-ce que c'est un problème de saignement chirurgical? Est-ce que la coagulation, l'hémostase médicale est normale? Et à ce moment-là, c'est une problématique chirurgicale. Et là, la sanction n'est pas la même, puisque c'est un retour au bloc en urgence pour reprise chirurgicale. Pareil, avant d'avoir le rotem, comment est-ce qu'on procédait dans une telle situation-là? Alors là, c'est encore plus compliqué et encore plus dangereux que dans la situation précédente, puisque là, on va avoir une hémorragie active, on a un risque vital qui est majeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chirurgien, à la fin de l'intervention, il met en place des drains. Les drains, donc, leur but, c'est de récupérer effectivement le sang qui pourrait survenir autour du cœur après l'intervention. Le problème, c'est que ces drains vont être saturés en termes de débit à un moment donné, donc si le saignement est trop important ou si les drains même commencent à se boucher, là, on peut aller très vite vers la catastrophe, à savoir la tamponnade, avec du sang qui va arriver donc autour du cœur et qui va venir le comprimer, avec un risque de bas débit cardiaque qui va aller jusqu'à l'arrêt cardio-circulatoire assez rapidement. Donc là, chaque minute compte. Donc pareil, on utilisait la bombe hémostatique, 3 PFC, 3 grammes de fibrinogène, plaquettes, on passait tous les produits sanguins. Si jamais le saignement persiste, ben là on se dit c'était pas un problème d'hémostase médicale visiblement, donc on va retourner au bloc opératoire et puis on va transfuser encore, hein, puisque le patient continue de saigner. Et donc voilà, finalement on avait un rotem pour cette patiente. Donc on réalise le rotem, le CT de l'extem il est normal, ensuite on passe à l'étape suivante qui est le A5 de l'extem qui est limite, il est pas loin des 30, et surtout un A5 du fibtem qui est très bas. Donc déjà, on sait qu'on va devoir passer du fibrinogène. Ensuite, on compare le CT de l'intem et de l'eptem, et on voit qu'il y a une différence également. Donc en fait, c'est une patiente qui avait encore de l'héparine à dose significative qu'on doit tamponner avec de la protamine de nouveau. Donc voilà, fibrinogène, protamine, on passe pas de PFC, on passe pas de plaquettes. Et donc vous comprenez bien par ces deux cas cliniques qui a des réelles problématiques à la fois éthique, notamment en période de pénurie de produits sanguins labiles, et c'est même remonté récemment jusqu'au Sénat. On a des problématiques médico-économiques également qui vont se poser dans un contexte de produits sanguins labiles dont le prix ne fait qu'augmenter chaque année. Et on a des problématiques de complications liées à des transfusions dont le patient n'aurait pas forcément besoin, avec des complications qui sont certes rares, mais qui peuvent être particulièrement graves. Donc en conclusion, la thrombolestométrie en chirurgie cardiaque, donc ça va nous permettre clairement d'avoir une gestion plus réactive de la coagulopathie. Une diminution des saignements a été prouvée, de même qu'une diminution des transfusions, parfois même une diminution de la mortalité, une diminution des coûts, notamment au vu de l'utilisation restreinte de produits sanguins labiles. Et ça va permettre également une meilleure gestion des flux de produits sanguins labiles, ce qui permet finalement une gestion personnalisée. On va de plus en plus vers la médecine personnalisée. Ben là, c'est une gestion personnalisée de la coagulopathie. Et donc, idéalement, pour la vision du clinicien, on va dire, on préfère effectivement avoir un appareil délocalisé, parce que là, on va être encore plus réactif et on n'aura pas de problématique d'acheminement. Et voilà, ne pas oublier de bien former les praticiens pour utiliser ce genre de technologie, c'est important, en collaboration avec les cliniciens, les hémostasiens et éventuellement le laboratoire qui peut aider également. Voilà, je vous remercie de votre attention.